ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort.
Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet.
Bienvenue sur 50 à Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique.
Bonjour, donc ce soir on est toujours chez nos amis de 50 à. Et on va commencer à triturer la notion de transformation numérique, qui est un peu toujours difficile. On va s'intéresser quand même aux grands enjeux, aux méta, et aux rapports entre les plateformes et nous. Et notamment, là, une des questions qui se pose, c'est: est-ce que les GAFA nous ont transformés en une colonie numérique? Pour être plus clair, pour le moment les Américains, peut-être bientôt les Chinois. Et est-ce que, du fait de la centralisation des données, du fait du contrôle juridique par l'État américain, du fait de la puissance financière et technique des GAFA, et aussi de leur clairvoyance et de leur capacité à aller vite, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une colonie des Américains en matière technologique ?
Fabrice Etelboin.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Paul. Je faisais tout à l'heure la comparaison entre le rapport établi par les États-Unis avec l'Europe depuis plusieurs décennies sur le numérique et le rapport que nous, Européens, on a établi avec l'Afrique à partir du 18e sur les matières premières. Et au final, c'est un peu la même chose. Si on compare les données personnelles avec les matières premières qu'on a pu trouver dans les sols africains, l'Europe s'est très largement servie dans les sols africains durant plusieurs siècles en échange, si on peut dire ainsi, de l'installation d'une infrastructure qui leur a permis quand même de passer un cap d'un point de vue développement, mais qui les a privés de leurs ressources et qui les a privés de tout un tas d'autres avec ce développement. Et finalement, les GAFA, les GAFA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais d'une façon générale, la technologie américaine qui a été apportée avec le cloud depuis plus de 10 ans a fait à peu près la même chose avec l'Europe. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation effectivement de colon où, pour faire tourner une entreprise, très objectivement, si on veut se passer du cloud américain, que ce soit pour son CRM, son workflow, enfin, n'importe quelle fonction vitale de l'entreprise, se passer de cloud américain, ça devient très très compliqué, extrêmement coûteux, et ça se paye au prix d'une agilité qui fait que le marché a tout fait de vous dézinguer parce que vous êtes plus compétitif. Donc, sortie des infrastructures américaines, point de salut pour l'économie européenne qui s'est complètement reconstruite là-dessus. Et y a peut-être un moment où il va falloir ne serait-ce que constater de façon un peu froide cet état de fait et voir quels sont les futurs qui s'offrent à nous dans cette optique-là. Est-ce qu'on continue à être des colons? Est-ce qu'on crée des formes de résistance? Est-ce qu'on crée des protections juridiques aussi qui pourraient éviter pas mal de choses? On a vu le GDPR, il peut y avoir bien plus. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui veut répondre à cette question?
Dans le village gaulois.
Alors, Kim, tiens, présente-toi.
Christophe Ducamp, moi je représente ici un peu le mouvement IndieWeb, qui est un tout petit village gaulois, qui a pour vocation de donner aux consommateurs la capacité de reprendre la main justement sur ces données, etc. Dans la réalité, c'est très difficile, parce qu'on est sur des technologies qui sont difficiles à... quand on veut se passer, je dirais, quand on veut se dégager d'un mail qui s'appelle Gmail et compagnie, on en a vu chez Framasoft et compagnie, enfin se dégoogliser, il ne faut pas oublier que même dans le baromètre Jung et Rubicam qui est paru ce matin, dans les GAFA, on en a deux qui apparaissent dans les 50 marques, même plutôt trois, dans les 50 marques les plus préférées des Français, où Google et Amazon se hissent dans le podium des 5. Et donc c'est à la fois des marques qui sont adorées et chéries des Français parce qu'elles savent rendre service, et qu'en termes de compétition et de capacité à sortir de ce cadre, On n'a pas pour le moment réussi à trouver des moyens concrets pour faire en sorte qu'en termes d'usage, on sorte de cette colonisation.
Donc on est un peu coincé, on est un peu dans une situation. Moi, ce qui me fascine chez les Américains, c'est leur rapidité. C'est leur intuition et leur rapidité. Et la rapidité à laquelle ils ont inventé un marché, ils l'ont développé et ils en ont pris le contrôle. On dirait que les Européens n'ont toujours pas compris ce qui s'était passé.
T'as des raisons politiques avant tout. Hein. Dès l'ère Clinton,
Fabrice, oui.
Dès l'ère Clinton, on avait des chefs d'État qui étaient pieds au plancher sur les technologies, sur l'innovation. À l'époque, on avait quoi en face? On avait Jacques Chirac qui parlait du mulot. Donc on a pris un retard colossal du fait du politique. On avait aussi un environnement lié à l'innovation en France qui était morcelé par langue. Enfin, l'Europe ne s'est jamais faite au niveau de l'innovation. Il n'y a pas eu d'unité européenne sur l'innovation. Donc forcément, on s'est fait éclater, très clairement. Et encore aujourd'hui, on n'est pas sur des politiques qui comprennent vraiment finement la chose technologique. Macron est très start-up nation. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un homme de technologie. Ce n'est pas un homme qui a fait les études qui lui mèneraient à une compréhension fine des technologies. Il s'est bien entouré, mais fondamentalement, on est toujours dans cette situation un peu bancale d'un secrétaire d'État sans trop de pouvoir, sans trop d'administration, sans trop de moyens, qui est en charge de faire la pluie et le beau temps sur le numérique uniquement par l'angle économique, en faisant abstraction de tous les autres angles qui sont aujourd'hui essentiels.
Bonjour, je suis Nicolas. Je suis le...
Nicolas qui ?
Nicolas Bermond, je suis le directeur de Syncanta. Moi, je pense déjà, en fait, je pense que c'est le socle qu'on a perdu depuis longtemps. On voit l'ICANN avec la nomenclature des noms de domaine. En fait, c'est géré aux États-Unis. Enfin, tous les data centers sont, je crois que c'est 60% des data centers qui sont aux États-Unis. Donc, en fait, on n'a déjà plus la main, en fait, sur les protocoles aussi qui sont souvent.
Qui sont libres, heureusement, pour beaucoup. Heureusement.
Oui.
S'il y a une chose qui peut être, si ce n'est nous sauver, du moins potentiellement une bouée de secours, c'est bien le logiciel libre, qui lui, par définition, n'est pas...
Oui, je parlais des protocoles bancaires ou
Chacun son protocole.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Nous n'avons pas les mêmes protocoles.
Donc là, je sais qu'il y avait eu un plan européen pour rapatrier des data centers. Il y a eu des millions qui ont été donnés à SFR, à Orange.
Pour le clou de souverain.
Voilà, oui. Le clou de
souverain. Ouais, et les millions ont disparu.
Et ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça aurait été peut-être une tentative. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'il faut carrément soit changer de manière de consommer l'Internet, revenir peut-être plus à un indie web où je suis propriétaire de mon serveur, de mon système de messagerie.
C'est pas réaliste, ça. Soyons honnêtes 5 minutes. On est tous des fans de ce genre de solution. Mais
non, je sais bien, mais sinon je vois pas réellement d'autres solutions, en fait, de sortir de cette emprise qui est une emprise technologique, en fait.
Alors, oui, qui êtes-vous?
Glenn.
Bonjour Glenn.
Je m'intéresse aux infrastructures et aux questions d'usage et de logiciel. Pour moi, les sujets que vous évoquez, c'est au niveau de la prise de conscience et au niveau de l'adhésion du public à ces outils d'esclavage, en fait, qu'on nous met entre les mains. Bah, qui a envie d'aller contre ça? C'est d'un côté, avec Chirac et son mulot, il se sentait en retard, donc évidemment, en fait, pour une puissance technologique et une puissance économique comme la France, on ne va pas aller à l'encontre de l'innovation et du progrès que représente une nouvelle technologie. Est-ce qu'on a pris le temps de se poser la question de l'impact des OGM sur nos vies, sur la santé, etc. C'est exactement la même chose. C'est aujourd'hui, ce qu'on repère, c'est que c'est une opportunité au niveau commercial, c'est une opportunité en termes de communication. Et évidemment, on ne prend pas le temps de regarder l'impact que ça a, d'autant plus que les alternatives aujourd'hui de l'indie web, de l'open source, et quelles que soient les alternatives non GAFAM, qu'elles soient open source ou pas d'ailleurs, déjà, est-ce qu'elles existent pour les différents sujets équivalents GAFAM? Quel est leur coût si c'est pas de l'open source, si c'est pas gratuit? Est-ce qu'on va demander à la population de payer le vrai coût des stockages de données, le vrai coût d'un accès à une boîte mail qui avoisine à peu près les 5 à 7 euros par personne, quand Google ou les autres vous le fournissent gratuitement en échange de l'analyse de vos mails. Est-ce que ces solutions sont utilisables par tout un chacun, par votre grand-mère, par, est-ce qu'elles sont aussi performantes, enfin, ça, et si elles le sont, est-ce que ça importe l'adhésion? Est-ce que les gens vont continuer à l'utiliser quand on est dans une société où la perception de soi par les autres est aussi importante? C'est, ok, je vais utiliser une solution inconnue sur laquelle personne fait de communication, et ça va être un nom abscon. Alors qu'à côté de ça, je peux avoir le machin tout brillant, tout avec un nom sympa, et dans la publicité...
Bien plus ergonomique, et bien plus utile, et que ma mère peut utiliser. Donc là, honnêtement, c'est pas vraiment la peine de tourner autour du pot. On connaît tous la réponse, c'est non. C'est pas demain la veille que tout le monde va s'équiper en logiciel libre. On aurait bien aimé, mais c'est, ça ne va pas arriver.
Moi, ce que j'observe, moi, surtout, c'est la stratégie marketing. C'est-à-dire qu'en fait, en général, au début, c'est du gratuit. C'est un peu comme, le programme de Coke, là, du dealer. D'ailleurs, ça ressemble un peu, c'est des groupes, c'est des alliances, il faut développer une clientèle, il faut se l'affilier, puis après elle est devenue dépendante. Et effectivement, on le voit très bien avec les gens qui donnent leurs données, leurs photos sur les réseaux sociaux, qui disent en fait c'est pas grave. Oui, j'ai vomi avec un dîner d'anniversaire, c'est très rigolo, je partage ça avec mes potes. Et puis après, 2 ans après, ils veulent chercher du boulot et leur patron retrouve cette photo. Bon. C'est-à-dire qu'on sent que les gens ont un besoin de facilité, de trucs ludiques, de trucs à partager. Mais en fait, toutes ces données, tous ces usages et tous ces réseaux, en fait, ils sont très contrôlés. Ils sont pas du tout, c'est pas du tout une bande de potes.
Ah non, il y a un autocontrôle dingue.
Voilà. Et donc, on change de quelque chose de ludique. Je dirais, c'est un usage ludique, hein, quand on est sur nos téléphones portables et tout, 3 quarts du temps, c'est pas impératif pour notre vie. Et puis on rentre dans un monde, on pénètre dans un monde alternatif, qui est le monde des GAFA. Et là, c'est eux qui règlent, c'est eux qui font la loi, et c'est eux qui récupèrent les données, qui les traitent, qui les vendent, qui les donnent ou qui les donnent pas, enfin, etc. Donc on sort de notre territoire. Donc moi, je pense à la notion de territoire, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe existe en tant que territoire, ou est-ce que finalement il s'est fondu dans un autre territoire plus grand, qui est celui des Américains, voire des Chinois ?
Donc, d'un point de vue numérique, clairement l'Europe n'existe pas. On a déconstruit toutes les usines numériques qui étaient traditionnellement dans les data centers de chaque entreprise. On a connu ça, hein, il y a 20-30 ans, chaque boîte avait son petit data center et elle installait tout un tas de logiciels qui permettaient en tant que boîte de gérer ses activités. Tout ça, c'est fini. La plupart des boîtes sont passées au cloud et d'un point de vue économique, c'est parfaitement rationnel comme décision. Mais on a déconstruit des usines en France pour les reconstruire aux États-Unis. Après, encore une fois, je pense que le point qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas créons une résistance. Enfin, en plus, autour de cette table, objectivement, on l'a tous tenté cette expérience. Donc on a tous l'expérience de la résistance et on sait très bien les limites du système qui est que on va convaincre un petit carteron de gens qui utilisent déjà du logiciel libre à continuer à utiliser du logiciel libre. Mais ça restera un village de Gaulois qui résiste face à l'armée de Jules César.
Les Gaulois.
Ouais, les Gaulois.
On sera peut-être ces derniers...
Monsieur le Président, parlez-le encore.
Moi, j'ai une adresse Gmail au quotidien. Hein. Mais on peut espérer au mieux se retrouver en village de Gaulois qui résiste. C'est pas...
Ça commence peut-être par une hygiène numérique basique, qui est se réapproprier son mail. Moi, j'avoue que j'héberge mes mails sur des serveurs européens et que je ne les donne pas à Gmail. Alors, c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple de passer par Gmail pour un tas de raisons. Mais au moins, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Après, c'est dans tous les paramétrages de l'ensemble des plateformes sur lesquelles je suis pour essayer de contrôler à minima mes données.
Oui, mais encore une fois, Nicolas, pour une personne qui fait cet effort, combien vont dans la facilité ? Et c'est compréhensible. Et la question sociale et politique qui se pose aujourd'hui, c'est à partir de cet état de fait, qu'est-ce qu'on peut dresser comme perspective d'avenir ?
Alors, open source, qu'est-ce qui fait l'open source ?
Avant l'open source, si tu parles d'hygiène numérique, on parle des différents services, mail et autres. Il y a une colonisation qui est en train de se faire, qui peut être déjà faite et peut-être déjà bouclée. La question que je me pose d'abord, c'est quels moyens sont utilisés pour ça et savoir contre quoi on lutte, parce que ça ne sert à rien de résister si on ne sait pas contre quoi, et quels sont les moyens de cette oppression. Et moi, j'en identifie, voilà, comme ça rapidement, j'en ai dressé 3. Et c'est intéressant que les 3 en question soit du plus visible au plus invisible, et que la valeur en fait est croissante, mais l'intérêt que lui porte le public est décroissante. Je m'explique. Dans les moyens en question, pour moi, c'est le service, les outils. Quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte aux gens ? Une boîte mail, on sait très bien, ça sert à communiquer. T'as pas de boîte mail qui communique pas. Les logiciels, déjà, qui a envie de parler des logiciels qui permettent de faire du mail ? On va parler de protocole réseau, de SMTP, de POP, de je ne sais quoi d'autre derrière. Qui a envie de s'intéresser aux logiciels qui font vraiment fonctionner ça ? Je pense que Google utilise des trucs qui sont à peu près standards, qui ont été développés 10 ans avant ou 20 ans avant par des IBM et je ne sais qui d'autre... qui sont open source, qui sont utilisés par presque tout le monde aujourd'hui sur Terre, et en fait, tout le monde s'en fout. Mais déjà, la maîtrise de ça, qui fait fonctionner Gmail, ou qui fait fonctionner Yahoo, ou qui fait fonctionner Outlook, il suffit d'installer chez vous...
La pédagogie.
Voilà, c'est une question de pédagogie, déjà, de savoir que ça existe. Ouais. Et ça pose la dernière question, c'est, ok, j'ai le logiciel, je l'installe où ? C'est quoi l'infrastructure qui va héberger tout ça ? Et qui a envie de gérer sa propre infrastructure ? Alors, comme tu dis, Fabrice... Personne n'a envie de ça. Et c'est rationnel d'aller dans le sens où on mutualise. Mais cela dit, la valeur de ces trucs-là est croissante. Aujourd'hui, quand tu vois les investissements des différents hébergeurs, des différentes sociétés, Amazon pour ne pas les citer, en fait, ils ne sont pas en train de d'équiper un logiciel. Ils s'en font tout l'inverse. C'est héberger tout ce que vous voulez. Et nous, on s'occupe de poser les briques d'en dessous que vous ne voyez pas et sur lesquelles, de toute façon, vous ne voyez pas la valeur.
Ouais, c'est complètement ce que les Européens en Afrique, ils ont posé une administration des voies ferrées.
Exactement.
Et après, ils ont pillé les matières premières en utilisant tout ça.
Exactement.
Voilà. Alors, moi, je voudrais parler d'OVH, parce qu'en fait, quand on a parlé du cloud souverain, c'était très étonnant.
OVH a été exclu.
Voilà. Donc, on avait un champion français.
Voire un champion. On en avait déjà un.
Attends.
On aurait pu renforcer.
Non, mais il faut expliquer. On avait un champion européen des serveurs. Enfin, et l'État, avec quelques grands barons des télécoms, a décidé de concurrencer son champion.
Son propre champion.
Voire pour mettre le flinguer, en finançant par de l'argent public des concurrents qui, bon, c'était pas le premier métier. Et d'ailleurs, on a vu le résultat.
Bah, le résultat,
il a été assez simple. En dehors de chamailler pour prendre le pognon, il s'est pas passé grand-chose.
Il y a quelques centaines de millions qui ont disparu dans les méandres des couloirs d'Orange d'un côté.
On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils sont devenus, ces millions.
Et du côté... Non, on ne sait pas. Non.
On ne sait pas. Non, il y a des bruits sur l'immobilier. À un moment, on m'a dit qu'ils ont acheté des locaux.
Ah bon, je t'avoue que j'ai pas vraiment...
Mais j'ai pas suivi non plus.
Et de l'autre côté...
Mais bah, personne nous a expliqué, d'ailleurs, ce qu'on avait fait avec notre argent.
Mais ça te regarde pas.
Bon. Donc, non seulement on a des champions, mais en plus, on les détruit.
Non, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas du tout détruit, porté atteinte à OVH, qui se porte très bien.
Ah.
Donc, essentiellement du fait qu'on s'est totalement planté dans la mise en place du cloud souverain, parce que l'autre cloud souverain, celui des SFR, du coup, il est souverain, mais il appartient à Israël, donc c'est pas vraiment souverain.
Ah.
Non,
c'était... Je pensais que c'était Suisse.
Non, SFR.
Ah, bon, d'accord, la Suisse, c'est juste que...
T'as tout un système de fonds, mais grosso modo, ça n'appartient plus à la France.
C'était Paris, Suisse, New York, et après, tu me dis, c'est Israël.
Et non, il y a des fonds israéliens dedans, mais très clairement, de toute façon, il n'y a plus des masses de fric français dedans, donc ça n'est plus souverain, par définition.
Bon, tant mieux pour eux, je crois.
Oui, tant mieux pour eux. SFR a fait l'objet d'achats, de rachats, de divisions, de reventes par appartement et de re-rachats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une multinationale comme une autre, mais c'est en rien quelque chose de souverain. Orange avait ce mérite d'avoir un minimum de souveraineté lié à la
marque. C'est leur métier, chez Orange. C'est quand même des mecs sérieux.
En tout cas, c'est des mecs français.
Ah,
c'est déjà bien.
Les Gaulois.
Mais bon,
ça. Et les Gaulois, ils n'aiment pas le changement, c'est quoi la phrase là ?
Résistant au changement, je me souviens. C'était le contre-feu de Hulot. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs.
Alors les Gaulois, ils n'aiment pas le changement. Hein.
Ils sont faits au changement technologique, ils ont des comptes Gmail, ils ont un compte Facebook, ils ont émigré aux États-Unis, les Gaulois.
Ils changent plus vite que l'administration française.
L'administration française, c'est un archétype. Hein. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les Gaulois, ces 20 dernières années, ont émigré aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui se passe avec Facebook, les volontés de censure des gouvernements européens sur Facebook ou sur Twitter, ça n'est guère qu'une forme de mini-partage de souveraineté sur une population qui a massivement immigré. Aujourd'hui, quand l'État français vient demander à Twitter de censurer des contenus sur la zone France, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'un vague gouverneur nommé par des colons à qui on attribue quelques droits de façon à ce qu'il puisse gérer sa populace locale. C'est ça. Mais la réalité, c'est que sur Twitter, on est aux États-Unis. On est aux États-Unis, on est dans une enclave.
C'est le droit américain qui est...
Non, mais ça a des bons côtés. Regarde le premier amendement. il a lieu sur Facebook et sur Twitter. Jusqu'à il y a peu de temps, tu bénéficiais du premier amendement quand tu es migré à travers Twitter et Facebook dans un territoire où effectivement la liberté d'expression était totale. Aujourd'hui, il y a un mouvement des gouvernements européens pour censurer un peu et adapter l'expression sur les réseaux sociaux à la réalité du droit européen, qui fait qu'en France, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas prôner...
Il y a des sujets qui fâchent en
France. Non, indépendamment des sujets qui fâchent, il y a des sujets qui sont illégaux. Tu ne peux pas prôner la supériorité de la race blanche sur un média français. Et c'est tant mieux au regard de la façon dont la démocratie française a évolué. Mais aux États-Unis, tu as parfaitement le droit de faire ça. Et pendant pas mal de temps, finalement, tu avais le droit, en tant que citoyen français, de le faire sur Twitter ou sur Facebook.
Et aux États-Unis, ils ont le droit de voter pour Trump.
Attendons, avant de se foutre de la gueule des Américains, de voir ce qui va nous tourner dans la gueule dans les années qui viennent. Pour l'instant, je voulais fier à bras, mais n'oublions pas qu'on s'est longtemps foutu de Berlusconi jusqu'au jour où on a élu Sarkozy. Hein.
Alors, Nicolas, les Gaulois.
Oui, c'était pour revenir en fait à notre sujet. On pourrait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait pas imposer déjà aux administrations d'acheter des logiciels français ou...
Mais l'administration, elle est financée par Microsoft.
Oui, mais c'est ma question.
Il y a un problème.
Implicite.
On va lâcher le mot qui fâche, mais il y a un problème de corruption qui fait que c'est pas possible. Là aussi, il faut peut-être être
un. Oh, tout de suite.
Non, je pensais au personnel.
Fabrice.
La moitié des emplois du PS.
Ben non, moi c'était cette question. Hormis la corruption, on pourrait pas, nous demander. Peut-être qu'on devrait être plus activiste et imposer des choses à l'administration, à l'État. Dire faut que ça change. Il faut que vous ayez que vous achetiez du logiciel français. Il faut peut-être aussi, je pense, en termes de pédagogie.
Le dernier logiciel français qu'on a acheté, c'était le système pour payer les impôts à la source, et visiblement, il marche pas.
Des logiciels qui fonctionnent et aussi pour peut-être la pédagogie au niveau pour les enfants, peut-être comme disait Glenn, les former sur, il faut qu'ils comprennent comment ça se passe, parce qu'à mon avis, quand tu comprends comment ça se passe, tu as envie de trouver des solutions. Pour le moment, personne n'a envie de trouver des solutions puisque personne ne comprend.
Glenn, d'accord, mais dans quel ordre tu le fais? Donc tu vas commencer par la pédagogie, tu vas commencer par le logiciel. En fait, qu'est-ce qui est vraiment important? Ça, tu le sais uniquement si tu as compris les enjeux de ces différentes sociétés, des GAFAM ou des États qui contrôlent ces GAFAM ou ces différentes structures. Et pour moi, c'est des questions de consommation, déjà, bêtement commerciale. Des questions de production, parce que si les gens ne peuvent pas produire, ils n'ont pas les moyens de consommer. Des questions de comment tu garantis que ce truc-là reste en place, donc le contrôle des populations pour bien rester sur les rails qui vont bien et pas consommer autrement. Donc c'est tout un enjeu d'éducation, hein, comme tu dis. Et in fine, est-ce que tous ces gens qui finalement se font exploiter, par quels moyens ils le font? C'est par toute l'information qu'on a sur eux, par toute l'information qu'ils produisent, et donc les données qu'ils produisent, qui sont peut-être au final aussi bien la valeur, enfin donc le capital de demain, qu'un moyen de contrôle.
On le sait, ça a
été un peu perdu.
L'aboutissement.
La question, c'est ça. Au final, ces différentes entreprises et ces différents États qui vont nous diffuser du numérique par ces outils, par ces infrastructures, par ces logiciels, c'est quoi leurs différents objectifs, leurs différents enjeux?
Oui,
selon leurs intentions au niveau politique ou au niveau économique, elles vont agir à différents niveaux, que ce soit bêtement pour consommer, que ce soit pour produire pour elles, de façon volontaire ou involontaire, est-ce que c'est la servitude volontaire ou pas, est-ce que c'est une volonté de garder le contrôle? Et ce contrôle, il se fait par quels moyens? Est-ce qu'on est dans un panoptique? Est-ce qu'on est dans un... Et au final, qui fournit la donnée? Qui produit la donnée? À qui elle sert? Au final, on est aujourd'hui les producteurs de données. Ces données représentent la valeur. C'est par ces mêmes données qu'on se fait contrôler.
Mais bien sûr. Et c'est évident.
C'est évident, mais quelle est la priorité de ces différents enjeux? Et face à ces différentes priorités d'enjeux, c'est là où tu vas mettre les mesures qui vont bien pour réagir. Mmh. Ça ne sert à rien de réagir sur l'enjeu minimum si, à côté de ça, le tout prioritaire, c'est autre chose.
Oui, mais on ne sait pas tout ce qui est...
Enfin, politique.
Le problème, c'est qu'il y a aussi une opacité. C'est-à-dire l'algorithme de Google, tout le monde voudrait le connaître. C'est pareil, les données qu'il stocke, on ne sait pas très bien. On a appris là cette semaine qu'il stockait des données, même quand on lui disait de ne pas le faire, quand il était...
Donc, en fait... Il ne respecte pas le RGPD ?
Non, mais je parle même pas du RGPD.
C'est une bonne question, parce que 4%... Là, Google se retrouve même dans la situation de 4% du chiffre d'affaires mondial en amont des RGPD. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à faire sauter ça et à manigancer au niveau de Bruxelles?
C'est 4%, ça n'est
pas... 4%, c'est la sanction maximale de la RGPD, ouais. Dans l'optique où, grosso modo, tu as abusé, mais jusqu'au bout du bout du bout. Ouais. Alors, il semblerait quand même que ce qu'a fait Google, qui est de relever la géolocalisation de tous les possesseurs d'Android, qu'ils le veuillent ou pas, même quand ils ont signalé qu'ils ne le voulaient pas, on est dans ce cas de figure. Sous réserve de validation d'un juriste, hein, mais en tout cas, on est dans des zones où, qui oui, peuvent... Mais,
alors, c'est là vraiment où il y a un problème de souveraineté, c'est-à-dire, est-ce que vous semble possible qu'un État, type la France, rentre dans un rapport d'égal à égal avec Google et lui dise, en fait, non, nous...
France ne pense pas, mais l'Europe peut-être...
Ah, l'Europe, tu crois, toi?
La France ne pense pas. Je pense que d'un point de vue puissance, on n'est pas sur un pied d'égalité. Par contre, l'Europe, quand même.
C'est un marché, quand même.
C'est non seulement un marché, mais c'est une image.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire que Google s'est fait pincer ces 15 derniers jours à, d'une part, espionner très clairement tous les utilisateurs, mais également manigancer avec la puissance chinoise pour leur fournir un moteur de recherche censuré. Donc, en termes d'image, ça commence à craindre. Ils ont des employés qui se révoltent en interne de façon à ce que Google arrête de travailler avec les militaires américains. Et il commence à y avoir au sein des entreprises américaines une prise de conscience, un truc pour lequel j'ai longtemps lutté d'essayer de faire prendre conscience des responsabilités sociales qu'avaient les développeurs. Clairement, c'est en train d'arriver dans les GAFA, aussi bien chez Amazon que chez Google.
Alors, écoutez, moi, c'est bien, là, c'est chaud.
C'est complexe comme sujet, puisqu'il n'y a pas de solution. Oui.
Mais voilà, c'est ça. Y a-t-il des solutions?
Oui, c'est
moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on concrètement, quelles sont les recommandations que nous si demain le chef des Gaulois nous invite, quelles sont les recommandations qu'on peut lui faire?
Moi, ma recommandation, c'est que la résistance, c'est bien gentil, mais objectivement, je pense qu'on est bien placé pour savoir que c'est pas ça qui va changer retourner la Terre. Je pense qu'on est plus maintenant dans un besoin d'anticipation des conséquences de tout ça. Ok, on a été colonisé, on a perdu l'essentiel de notre souveraineté numérique, ça affecte aussi bien l'économie que la société, l'économie à travers tous les offres cloud qui structurent les entreprises, la société à travers Facebook, Twitter, le débat public et l'opinion publique. Quelles vont être les conséquences de ce qui, pour continuer dans les parallèles historiques, a été la situation de la Russie au moment de la révolution industrielle où elle a totalement raté le coche, elle est restée sur une économie agraire et il s'en est suivi un bouleversement politique majeur qui a formé le XXe siècle. Qu'est-ce tout ça va avoir comme conséquence sur le territoire européen? On voit déjà que ça s'agite, qu'on a des bouleversements politiques assez massifs un peu partout en Europe, et c'est vraisemblablement pas fini. Est-ce qu'on pourrait réfléchir sur les liens de causalité et ce parallèle historique à la Russie, et du coup peut-être arriver à anticiper un peu ce qui va se passer de façon à encaisser le choc, parce que je pense pas qu'on est dans une situation où on va faire autre chose qu'encaisser un choc.
Glenn,
c'est intéressant que ça vienne sur la question de la souveraineté, parce que en fait il y a deux façons de l'envisager, soit en tant qu'individu, soit en tant que collectif. En tant qu'individu,
je suis sur la collectif, mais, mais c'est une très bonne remarque.
Mais tout à l'heure, c'est toi qui utilisais le terme d'émigration numérique. Mais au final, ça revient à ça. C'est une prise de conscience à différentes échelles. C'est en fait, ok, les GAFAM ou je ne sais qui nuit à ma souveraineté, je me barre.
Alors,
mais comment tu veux sortir du numérique? Comment tu veux sortir de l'internet?
Tu changes. Quand tu émigres, tu passes d'une souveraineté à un pays.
Mais tu vas aller où en Chine?
Ils ont les contrôles tout l'internet.
Qu'est-ce qui va te fournir clé en main? Une suite Office, online, collaborative, un OS, un mail, des systèmes de messagerie, un système de réseau social, un moteur de... Qui va te fournir ça en dehors des Chinois?
C'est la question des alternatives aujourd'hui, effectivement.
Et la seule alternative, Christophe, peut-être peut nous parler d'alternatives.
Je me renseignais récemment pour essayer de sortir de cet aspirateur de données Google sur Android. J'ai découvert un OS canadien qui a priori est utilisé par tous les activistes.
Ça
reste des trucs extrêmement complexes. Flasher un Android, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de ma maman. Donc pour le moment,
la population, elle a migré. Hein. Elle a migré. Et c'est exactement la même situation que les Irlandais qui se barraient d'Angleterre à la fin du 19e pour aller aux États-Unis parce qu'ils crevaient de faim. On n'a pas de webmail, on n'a pas tout ça en Europe. Et bien tout le monde s'est barré pour aller en profiter aux États-Unis. Ça ne reviendra pas avant longtemps, très longtemps.
Moi, je voudrais
Je voudrais quand même regarder ce qui se passe de manière industrielle, commerciale, financière d'ailleurs, en Europe par rapport aux Américains, notamment. En fait, on se rend compte que ce n'est pas uniquement le numérique qui est en train de prendre le lead. Mais on le voit, il y a l'énergie, bon, ça c'est un grand classique, hein. La finance, n'en parlons pas. Bon, ceci dit, on les a bien aidés, hein, parce que, on a leur demandé l'autorisation de tous les mois de dépenser de l'argent. Au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils nous conseillent de faire ci plutôt que ça. Et donc là, on savait de tout temps que les Américains contrôlaient l'armée, ça on le sait, mais aussi la nourriture, la food, hein. Ils ont eu toute une politique d'expansion qui était sur le contrôle de la food. Il y a des pays qui sont extrêmement dépendants au niveau de la nourriture. Et là, s'adjoint un nouveau territoire qui est le numérique. Donc moi, alors sans vouloir dire qu'il faut... Bien que Trump, quand même, nous incite à prendre l'autonomie. Donc,
oui, c'est un des grands mérites de Trump, c'est voilà. Qu'on peut avoir ce genre de discussion sans se retrouver taxé de Dieu sait quoi.
Voilà.
Ce qui n'était pas le cas avant Trump.
Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir que les grandes entreprises françaises ou européennes ont de plus en plus de mal à exister, être autonomes, souvent on voit qu'elles sont subies à des contraintes des tribunaux américains pour des fautes qu'elles ont commises, mais quelquefois en dehors du territoire américain. Donc on voit qu'il y a une emprise de plus en plus globale et de plus en plus multiforme vis-à-vis de nos activités et de notre indépendance. Donc moi, je me demande si ça part pas d'une réflexion plus globale au niveau des grands traités, au niveau des...
Ils sont en train d'être désingués les uns après les autres, les grands traités. Hein.
Ben si, c'est des traités de libre-échange. Donc tu fais ce que tu veux, à condition d'obéir aux droits américains.
Ils sont en train de défoncer les uns après les autres. Trump les dénonce les uns après les autres.
Oui, pour y trouver une facilité personnelle.
Pour des raisons qui regardent les Américains. Mais toujours est-il que tous les grands traités, notamment ceux contre lesquels on s'était érigé, TAFTA et compagnie, sont en train d'être descendus les uns après les autres. Je lisais ce matin dans le Washington Post des bonnes feuilles du dernier bouquin qui est sorti sur Trump, où il était visiblement à deux doigts de dénoncer également les accords commerciaux avec l'Asie.
Oui, enfin, il voulait tuer je ne sais plus qui.
Il voulait tuer Bachar.
Il changeait d'avis tous les matins. Et là, il veut supprimer la protection de la Corée du Sud. Enfin, je veux dire, ce garçon est très créatif quand même. Hein.
Oui, mais il est président des États-Unis. Et il a impulsé un mouvement qui amène les États-Unis dans une voie radicalement différente. Et pour peu qu'il renouvelle son mandat, qui sera une voie assez définitive. En tout cas, qui demandera une génération à être redressée si jamais il fait deux mandats.
Alors, moi, je voudrais en revenir aux Gaulois, parce qu'en fait, ça, c'est notre histoire, et c'est quelque chose qu'on comprend intuitivement. Est-ce que les entreprises françaises, les PME, les entreprises, les réseaux d'innovation, que sais-je encore, est-ce qu'ils peuvent encore, est-ce qu'il est encore temps, dans le cadre de la fameuse transition numérique, écologique, est-ce que, Nicolas, tu penses qu'il y a encore des choses à faire au niveau de l'entreprise, des acteurs économiques ?
Pour résister ?
Pour faire des choses.
Ah, en termes de développement.
Oui, d'argent, bah, le commerce, sûr. Le business.
Bah, je pense que ça, c'est un sujet complètement, c'est opposé. Je pense que pour moi, c'est opposé. C'est le business, c'est international maintenant. Donc en fait, on s'en fout de savoir.
Mais si tu contrôles pas les réseaux de business, à terme, tu contrôles plus le marché.
Non, mais au niveau d'une PME, on s'en fout totalement. Ce qu'ils cherchent, une solution rapide, efficace, économique.
D'un côté, en termes de solution.
Et celle-là, elle est américaine.
Nous, on travaille avec Google, on travaille avec Facebook, on travaille avec tous les acteurs. Et ils offrent des solutions performantes. Et bon, pour te développer, la souveraineté, on n'en veut plus du tout, puisque le business est de plus en plus. N'a plus de frontières.
Et puis, pour SQM, avec ce souveraineté de Ciel Comptabilité ou de Salesforce, c'est quoi la différence ? De toute façon, tu n'es pas
sûr. Oui, mais je pense que les Chinois, eux, ils contrôlent. C'est-à-dire qu'en fait, ils contrôlent leur loi, ils contrôlent leur État. Leur territoire et ils contrôlent leur réseau.
C'est ça qui fait leur force.
Mais ils ne sont pas assujettis aux mêmes règles.
C'est complètement un autre sujet. Ah oui, c'est sûr,
est-ce qu'il ne faut pas retrouver une forme d'identité française pour sauvegarder des réseaux, des territoires, des échanges commerciaux.
Ça, t'étais sur un sujet politique majeur, mais qui dépasse de très 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 loin le numérique. Hein.
Oui.
Je pense que t'es sur le même rapport aux choses que dans l'environnement. C'est-à-dire que, est-ce que tu inclus ou pas les externalités dans le coût de tes différents services.
Et comment tu les ramènes au niveau de l'entreprise, tes externalités?
C'est impossible en Amérique. Comme tu disais, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est déjà une solution immédiate et pour un coût moindre. Je vais dans tous les accélérateurs. Aujourd'hui, c'est mes clients et j'en ai côtoyé pendant quelques années aussi. Les mecs sont tous à te proposer ces solutions-là qui sont effectivement américaines, parce qu'ils déjà ne connaissent que ça, c'est une monoculture. Ensuite, effectivement, ça marche. Et qui a envie de se préoccuper de la durée, des problématiques sur la durée, sur la conservation de ses emails, sur les différents problèmes de migration, sur le fait que finalement tout ça c'est soumis à des contrats et qu'ils sont globalement unilatéraux, et le jour où le contrat change, on se retrouve captif de ces différentes plateformes. Personne ne s'en préoccupe. L'intégration de la maintenance, pour tous ceux qui ont essayé de vendre de la maintenance ici autour de cette table un jour, qui a envie d'entendre parler du coût de maintenance dès le début du contrat? Personne.
Non, je pense que le sujet, c'est sur toi, ta philosophie de vie, qu'est-ce qui va se passer pour toi, pour tes données, effectivement, avec deux grands axes, l'automatisation de ta vie, la robotisation en utilisation de tes données personnelles, on fait un peu ce que tu veux, tu deviens un peu en esclave. Et de l'autre côté, politiquement, si ça se passe mal, comment on va pouvoir te surveiller, comment on va pouvoir... comment ça impactera ta vie. Donc ça, c'est une question très très personnelle. Pour les entreprises, c'est déjà fait. Et je voulais dire, la seule chose qui a l'air de fonctionner un petit peu pour le moment, c'est le RGPD. Donc on peut dire que pour une fois, en Europe, les Européens ont réussi à se mettre d'accord, à faire une loi, à l'appliquer, et à commencer à faire peur à d'autres personnes.
À l'appliquer, non. Mais on a fait la loi.
On a le baptême du feu. Il y a 150 personnes qui travaillent, il y a déjà des gens qui ont été condamnés.
Oui, oui, mais on peut... Honnêtement, tant qu'on n'aura pas flouté sur un GAFA,
oui.
On pourra
mais
pas
ça,
dire
ça,
que...
Mais ça, ça se négocie en ce moment.
Mais ça se négocie,
ça
en,
se négocie en ce moment.
C'est en ce moment.
C'est à savoir combien est-ce que tu payes, combien tu payes en...
Moi, pour finir, mais j'ai pas grand-chose à dire, mais je regrette aussi que des boîtes, même publiques, de type La Poste, de type... et puis après, les boîtes françaises, n'appuient pas plus sur le rôle de... Je dirais de pédagogue, de prescription, de développement de solutions.
Je donne pas l'exemple.
Je le trouve assez mauvais. À une époque, La Poste avait une ambition de proposer un email gratuit à chaque citoyen. De la même manière, Page Jaune avait eu des velléités en ce sens. Ils n'ont jamais été un foutu de faire quoi que ce soit en la matière. Donc je pense qu'il y a des gros leviers possibles via des acteurs qui sont proches du terrain. Comme...
Moi, j'avais un moment réfléchi avec un grand nom d'assurance à mettre au point un indice de souveraineté, c'est-à-dire d'aller voir les entreprises et d'auditer leur IT et donc calculer un indice de souveraineté entre 0 et 1. 0, t'es absolument pas souverain, 1, t'es complètement chez toi. Derrière, en déduire beaucoup de choses pour l'entreprise. Typiquement, dans des temps qui sont, d'un point de vue géopolitique, un peu troublés, ça peut être intéressant pour des chefs d'entreprise, notamment des très grosses entreprises, d'avoir une idée de ça, à quel point ils sont maîtres dans leur royaume, dans leur entreprise, en tout cas dans la projection numérique de l'entreprise, qui est là où se crée l'essentiel de la valeur ajoutée aujourd'hui. C'est un gros chantier à faire, mais ça pourrait sensibiliser pas mal.
On ne sait jamais, peut-être que Trump va couper le tuyau demain, parce qu'on ne sait pas, il est tellement imprévisible ce garçon que...
Non, couper le tuyau, non, mais en tout cas, c'est clair qu'on n'est plus sur la vie est un long fleuve tranquille et la fin de l'histoire. On a quitté cette illusion de la fin de l'histoire. Donc du coup, ça représente un risque. Et le risque, il est massivement géopolitique. Donc le fait de ne plus être en situation de souveraineté, ça accroît ton risque. C'est un langage que les assurances comprennent bien. Et les chefs d'entreprise.
Effectivement, c'est une question de prise de conscience, au final, aussi bien au niveau individuel que collectif, sur les enjeux de cette souveraineté. Et tu parlais de résistance ou d'alternative. Avant même de parler de ça, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc rendons déjà visible ça. Permettons déjà que toutes ces petites voix au niveau national, entreprise et citoyenne soient visibles, qu'elles soient exprimées, qu'elles soient recueillies, je ne sais pas comment, mais inventons des solutions, pour qu'on puisse passer à l'étape d'après.
Oui, moi ce que je me rends compte, c'est que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, moi j'ai vu beaucoup d'actions, de communication, de financement sur l'innovation. Ça n'est pas, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on a vu. Alors, un des avantages, c'est que ça permet au moins de ne pas se laisser trop pousser, de ne pas se laisser trop distancer, et puis de faire une espèce de formation générale sur les dirigeants qui sont quelquefois un peu un peu plus âgés. Bon, est-ce que... Moi, par exemple, je me demandais si, lorsqu'il y a du financement public, on ne pourrait pas mettre deux clauses. Une clause qui serait une golden share. C'est-à-dire que si jamais un jour ils veulent vendre ou ils vont sur le marché, c'est-à-dire ils sont successful au niveau du business, est-ce que l'État n'aurait pas la possibilité de prendre 5, 10, 15%, voire de racheter si ça fait partie des intérêts nationaux? Ça, c'est la première règle.
Tu vas plomber les financements d'innovation avec des idées comme
non,
ça.
Non, mais ils rachètent, c'est comme un droit de préemption sur un immeuble. Hein. Quand tu veux vendre un appartement, la mairie peut décider, elle rachète au même prix. Tu fais le prix? Mais elle rachète au même prix. Bon.
Si j'étais sur la propriété intellectuelle.
Voilà. Donc, moi, est-ce que, au moins, sur certains sujets. Hein,
sur certains motions, on l'a vu dans le sens inverse. C'est
non, mais dégâts. Sur certains sujets qui touchent vraiment aux fondamentaux, qu'on considère comme importants, est-ce que, au moins. Ça...
Enfin, des Dailymotion, objectivement, on pouvait légitimement considérer comme important le fait d'avoir une plateforme de diffusion de vidéos. Mmh. C'était légitime comme préoccupation pour un
État. Et la deuxième chose, le deuxième truc, c'est de mettre. Alors là, ça va plaire à nos amis d'Open Source. C'est de mettre que tous les résultats d'expérimentation financés sur fonds publics soient mis en open source, en transparence. Comme les travaux de recherche. Ouais, tu fais des travaux de recherche et tu... Bon. Et que, en fait, que... ça, c'est deux demandes un peu pratiques. Hein, et qu'en fait, tout ce qui est... parce qu'en fait, c'est les comptes rendus d'usage. Parce que souvent, on fait des comptes rendus théoriques, conceptuels, mais les comptes rendus d'usage sont au moins aussi importants que les comptes rendus de scientifiques. Et que dès lors qu'il y a un financement... En fait, pour moi, simplement, c'est de recréer un lien entre l'État, les citoyens et les opérateurs, et de s'assurer que tout ne va pas dans un sens. Et parce que si c'est pour financer des boîtes qui, demain, vont se vendre aux Américains, c'est très bien pour les Américains. Mais est-ce que, de temps en temps, il ne pourrait pas y avoir un retour à quelque chose comme la nation ou l'Europe. Voilà.
On va s'arrêter là et conclure là-dessus. Je pense qu'on retombe sur l'un des grands sujets politiques dans l'absolu, bien en dehors du numérique, qui est en train de cléber le pays en ce moment. Hein. Ce qui n'est probablement pas un hasard. Une fois de plus, le numérique a été aux avant-gardes. Sur ce, on va peut-être
conclure. Oui, je vais conclure. Déjà, je vais vous remercier. Merci Artine, merci Glenn, merci Paul, merci Fabrice, merci Christophe. On a fait un format juste podcast, hein, c'est le format de rentrée, on revient tous de vacances, on est bronzés. Le mois prochain, on aura le podcast d'interview suivi du podcast. Donc on se dit au mois prochain, à très bientôt.